Depuis lors, tout a été bouleversé, bien sûr, sauf, dit-on ceci. Chaque enfant qui naît, ne reçoit de Dieu que la vie, et doit attendre pour que s'ouvrent les yeux de son esprit, que le très puissant djinn effleure ses paupières. Le djinn a beaucoup à faire depuis le commencement du monde, et on raconte que dans sa hâte, il s'acquitte parfois maladroitement de sa tâche. Si sa caresse est trop légère, l'enfant vivra comme dans le rêve inconsistant d'un animal. Si elle est trop appuyée, si grande est sa puissance, l'enfant ne pourra fuir les tortures intolérables de la lucidité que dans la folie ou la mort. Quand le très puissant djinn, en mesurant très soigneusement la force de son geste parce qu'elle était une gentille petite fille à laquelle il ne voulait faire de mal à aucun prix, lui toucha les paupières afin que pour la première fois elle ouvrit à son tour les yeux sur le monde qu'elle habitait depuis qu'elle avait surgi du néant, Chérine ne suivait pas des yeux le vol circulaire des oiseaux au-dessus des tours du silence, ni ne voyait le soleil se coucher derrière les saintes murailles de Harar. Elle n'écoutait pas pleurer l'empereur Anxiandi, alors que coulaient les eaux du fleuve jaune dans les ruines de Luoyang. Elle ne se trouvait ni dans le quartier arménien d'Ispahan, ni à Bagdad, où le calife Harun al-Rachid sentait ruisseler sur sa tête le sang de son vizir Jafar et de tous les Barmécides. Quand le très puissant djinn lui toucha les paupières, Chérine avançait dans la bruine d'une ville de la banlieue de Paris sur un trottoir recouvert de feuilles noires et rousses, le long d'un effrayant mur de meulière bordé de platanes, aux côtés de quelqu'un de si grand qu'elle devait lever très haut le bras pour lui attraper la main et y blottir la sienne. Elle entendait la voix de son grand-père qui lui disait « Fais bien attention à ne pas glisser, ma chérie, et avant ce miracle, il n'y avait rien dont elle conserva le souvenir. » Plus tard, bien sûr, les événements prendraient leur place dans l'ordre du temps, l'enchaînement des effets et des causes. Ils y acquerraient bien un sens, mais perdraient la puissance étrange de ces premières images brièvement arrachées aux ténèbres. Sa mère lui raconte les aventures d'un éléphant multicolore, et Chérine sait qu'il est bientôt temps de dormir. Elle tombe, elle se relève, et regarde avec étonnement le sang perlé à ses genoux écorchés. Elle a la fièvre, ses yeux brûlent, une main pleine d'amour masse sa poitrine avec quelque chose qui sent très fort l'eucalyptus et le camphre. Elle pleure, toute seule, assise sur la moquette d'un long couloir qu'elle ne reconnaît pas, dans la terreur de l'abandon, le plus pur désespoir, jusqu'à ce qu'elle voie sa mère courir vers elle, les bras grands ouverts en criant son nom. Elle est une petite sorcière avec un immense chapeau noir et une baguette magique qu'elle brandit en criant « Abracadabra !» et elle se sent presque aussi puissante que le très puissant djinn qui la regarde jouer en souriant. Un jour, tout le monde est triste. Sa mère, son père et ses grandes sœurs et toute sa magie n'y peut rien, personne ne répond à ses questions, mais son grand-père ne l'accompagnera plus jamais. Le long du mur de meulière sur le chemin de l'école maternelle, il y a un gâteau d'anniversaire avec si peu de bougies, la fraîcheur de l'après-rasage sur la joue de son père, l'odeur des salles de classe et les marrons si merveilleusement lisses roulant sur le bitume de la cour de récréation, les larges feuilles noires et rousses d'un autre automne, d'autres fièvres et des mauvais rêves, d'autres images encore de moins en moins furtives, de moins en moins isolées, se liant et s'agençant conformément aux lois de l'avant et de l'après, sans lesquelles il serait impossible de raconter cette histoire. Chérine vit avec sa famille, sa mère, son père et ses grandes sœurs, au troisième étage, sans ascenseur, d'une barre d'immeuble qui en compte cinq, le long de laquelle court du côté de la rue un muret agrémenté d'une haie de troène vert. Derrière l'immeuble se trouve un espace vert avec un bac à sable, des bancs de ciment et une pelouse que recouvrent à moitié les branches tombantes d'un grand saule pleureur frémissant sous le vent, où le souffle facétieux du très puissant djinn qui, possédant le pouvoir d'être en plusieurs lieux à la fois, ne se trouve jamais très loin de Chérine, mais qui, n'ayant peur de rien, ne sait pas deviner ce qui effraie les petits-enfants. Tous les efforts mis en œuvre pour égayer l'endroit n'ont contribué qu'à le rendre plus sinistre. La fenêtre de la chambre que Chérine partage avec une de ses sœurs donne sur les pavillons de banlieue, hideusement alignés de l'autre côté de la rue, qui ressemblent à des demeures de goules. Dans l'un d'eux vit une vieille femme aux cheveux teints en rouge orangé, seule et revêche, comme les vilaines sorcières des contes, dévoreuse d'enfants. Le week-end parfois elle reçoit la visite d'un jeune homme.